Voilà, alors bonjour chers frères et sœurs, c'est un double honneur d'être à cette place, l'honneur d'abord de vous rencontrer, de rencontrer des frères et sœurs qui partagent les mêmes objectifs, les mêmes certitudes, et nous avons partagé ces convictions de base par ces différents chants de louanges, d'engagement, de foi qui en soi représente déjà le culte. Et puis le deuxième honneur, c'est l'honneur de parler de la parole, de prêcher la parole de Dieu. C'est un grand honneur, une grande responsabilité, et je suis conscient de cette responsabilité, et ma prière, c'est que nous ne parlions pas de la parole sans que lui-même, l'auteur du livre, soit présent. Je vous invite donc à lire le chapitre qui nous est imposé ce matin, c'est le chapitre 5 du livre de l'Exode. Et j'aimerais le lire en entier, il y a 23 versets. Et nous chercherons devant Dieu comment il nous édifie par ses propos. Exode 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit : Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent : Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit : Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. Pharaon dit : Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux ? En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires : Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire les briques, qu'ils aillent eux-mêmes rechercher la paille. Vous lui imposerez néanmoins la quantité de briques qu'il faisait auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux, voilà pourquoi ils crient en disant : Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple : Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranchera rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant : Achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux, par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé votre tâche, et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques que vous avez fixée ? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dirent : Pourquoi traites-tu avec tes serviteurs ? Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit : Faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus comme si le peuple était coupable. » Pharaon répondit, « Vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, « Vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » C'est un peu triste, un peu dur. J'ai entendu dès mon adolescence que Jésus-Christ était présent dans tous les chapitres de la Bible, dans toutes les pages de la Bible. Il est au centre de l'Écriture. Et en lisant l'Écriture, recherchez Christ. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Qu'est-ce qu'il a à nous communiquer ? Mais honnêtement, quand j'ai relu ce chapitre 5, j'ai eu du mal à trouver où est Christ dans ce chapitre. Et puis, par la grâce de Dieu, le Seigneur s'est peu à peu révélé. Et j'aimerais juste rappeler ce texte de l'apôtre Paul en Romains 15, verset 4, qui dit « Tout ce qui a été écrit d'avance, donc Exode 5 fait partie du lot, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Sommes-nous quelquefois lassés de lire l'Écriture ? Sommes-nous peut-être de ceux qui disent « Bon, l'Ancien Testament, c'est historique, nous, ce qui nous concerne, c'est le Nouveau Testament, c'est un faux raisonnement. » Le Seigneur se révèle à nous du chapitre 1 de la Genèse jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse. Partout dans l'Écriture, le Seigneur est présent. Il veut se révéler, se faire connaître. Et tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Notez bien, afin que par la patience... Alors, on voit dans ce chapitre qu'Israël est à l'école de la patience, Moïse et Aaron aussi. Ils ressortent bredouilles, de ce premier entretien. Mais ils étaient avertis. Dieu avait dit en Exode 3, « Tu iras vers Pharaon, tu diras, laisse partir mon peuple. » Et il ne te laissera pas partir. Moïse avait entendu cela. Et dans Exode 3, il a dit, Moïse ne le laissera pas partir, car ça ne se fera que par la main puissante de Dieu. Les instructions du livre, la patience que cette instruction doit développer. Il y aura 10 entretiens qui vont générer les 10 plaies avant que la main puissante de Dieu incline le cœur de Pharaon et des Égyptiens, et que Israël puisse partir. Un combat long et difficile où le peuple d'Israël a appris la patience, la consolation que donnent les Écritures, les promesses de Dieu, et qui ont développé l'espérance. Et nous avons déjà là un parallèle avec nos épreuves d'en bas. Nous sommes parfois plongés dans des épreuves difficiles, épreuves de la vie, épreuves relationnelles, épreuves professionnelles, épreuves de santé, toutes sortes d'épreuves qui pourraient nous décourager. Et puis le Seigneur est derrière tout cela. Il nous dit, c'est une étape. Par cette étape, je veux t'instruire. Je veux t'apprendre à être consolé. Je veux t'apprendre à dépendre de moi et de moi seul. Nous l'avons chanté. Quand nous sommes bien en forme, nous trouvons ces chants très beaux. Le Seigneur est suffisant pour moi. Il est grand. Je le loue de tout mon cœur. Mais c'est dans les moments difficiles de la vie que Dieu veut se révéler réellement à nous. Donc, la patience, la consolation et développer l'espérance. Je rappelle que c'est sous la plume de l'apôtre Paul que c'est écrit. Car nous sommes sauvés en espérance. Autrement dit, tant que nous n'avons pas rejoint la patrie céleste, nous ne savons pas vraiment ce qu'est le salut. Nous en avons une idée, nous en avons une révélation, nous en avons ce que la parole décrit, mais tant que nous ne l'avons pas vécu, en réalité, nous ne savons rien. Mais nous en sommes convaincus et nous possédons l'éternité en espérance. Voulons-nous apprendre à nourrir cette espérance, même quand les choses vont de travers? Et voyez, le peuple, après ce premier entretien, affiche plutôt une mine découragée. « Qu'as-tu fait ?» disent-ils à Moïse. « Qu'as-tu fait ? Tu vois, notre situation est pire qu'avant. Arrête maintenant, laisse-nous tranquilles. Nous sommes finalement bien dans notre condition de servitude. » Et même Moïse est apparemment, en tout cas momentanément, déstabilisé. Il a son refuge vers l'Éternel. « Seigneur éternel, tu les connais, tu sais ce qu'il y a dans leur cœur, tu connais la situation. » Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce chapitre? On voit d'abord deux puissances qui s'affrontent, deux trônes qui s'affrontent face à face. Le premier trône, c'est le trône du Dieu souverain. Moïse vient au nom de l'Éternel et il s'annonce à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Moïse est serviteur de l'Éternel. Il représente le trône de Dieu, le trône éternel. Et nous avons, je vais le lire, Ésaïe 43. J'aimerais lire les versets 10 à 13. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. » C'est un prophète, ça pourrait être Moïse. Mais ça s'adresse à nous. Nous qui sommes appelés, nous sommes témoins de ces choses. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, écoutez bien, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera ? Retenez cette référence. Ésaïe 43, 10 à 12. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur se présente. Et Moïse vient au nom de ce Dieu, Moïse et Aaron. Vous vous rendez compte la force qu'il y a en eux, pas parce qu'ils s'appellent Moïse et Aaron, mais parce que c'est l'Éternel qui est là et qui s'est engagé. Et Moïse avance avec cette certitude. Et j'aimerais associer un autre passage du Nouveau Testament qui parle de la grandeur de Dieu. C'est Philippiens 2, 8 que nous connaissons bien. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. C'est la même déclaration. ici par la bouche d'Ésaïe, c'est l'Éternel dans le Nouveau Testament, Jésus déclaré fils de Dieu avec puissance, qui a hérité de Dieu tout pouvoir, il le dira, tout pouvoir m'a été donné, et ce Seigneur est là dans l'Écriture. Et on peut d'emblée, je disais, où est Jésus dans ce chapitre 5? Il apparaît déjà là. Je viens au nom de l'Éternel. L'Éternel a été révélé aux hommes par la personne de Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Nous ne pourrions pas connaître, nous ne pourrions pas avoir d'idée sur qui est l'Éternel si le Seigneur Jésus n'était pas venu le révéler. Eh bien, voyez qu'il apparaît peu à peu dans ce texte, il est là, il est présent. Et puis, encore d'autres textes, parce que la Bible ne parle pas qu'à deux endroits de la souveraineté de Dieu. Vous pensez bien, elle remplit l'Écriture. Et quand il est dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, il est évident que la parole tout entière exalte la souveraineté, la puissance, la magnificence de l'Éternel. En sommes-nous conscients? En sommes-nous imprégnés? Il a fallu que Moïse, pour s'adresser à Pharaon dans les termes qui étaient les siens, n'est-ce pas? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. Bon, il avait un message. Hein. C'est lui qui donne des ordres maintenant à Pharaon. Parce qu'il était convaincu et rempli de la réalité de Christ. Mais ce discours rencontre un autre discours. Et c'est au verset 2, je suis revenu à Exode 5, au verset 2, où il est dit, « Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» Vous rendez compte de cette arrogance. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Pharaon, imbu de sa personne, imbu de son autorité, imbu de son pouvoir, mais aussi manipulé par le sous-monde qui s'oppose à Dieu. Qui est l'Éternel? Quelle arrogance, quelle stupidité. Et c'est cette réponse qui témoigne du cœur endurci de Pharaon. Et c'est parce qu'il a cet aplomb, cette arrogance de l'iniquité, de répondre aux serviteurs de Dieu, qu'il sera précipité et qu'il est déjà condamné. Dieu le sait, il a dit à Moïse, « Je m'occuperai, ma main puissante l'écrasera, mais toi, va, tu es mon serviteur, va en mon nom. » Et Moïse entre dans cette rencontre. En parlant de cette sorte, ne croyez-vous pas que Pharaon représente ici tout à fait Satan, celui qui a pleine autorité sur le sous-monde, Satan qui occupe la place dans le monde, qui occupe toute la place dans le monde déchu, Satan qui se manifestera un jour sous les traits de l'homme impie dont parle 2 Thessaloniciens, l'homme impie qui, en quelque sorte, sera rempli de tous les pouvoirs sataniques. Il sera comme Christ est le Fils de Dieu, cet homme d'iniquité dont parle 2 Thessaloniciens sera l'homme du péché, celui qui incarne le pouvoir et la puissance de Satan. Et il est nommé ainsi dans 2 Thessaloniciens, il sera l'impie, le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu, il se manifestera par la puissance de Satan, avec tous les signes de la séduction mensongère. Ce sera le paroxysme de l'esprit du sous-monde qui attend notre société parce que il y aura un terme aussi à tous les actes d'opposition, tous les actes de blasphème, toute l'indépendance entretenue, voulue, développée contre Dieu. À un moment donné, la coupe sera pleine et cette coupe de la colère va se déverser et elle manifestera à ce moment-là ce fils de la perdition dont l'esprit du sous-monde remplira la terre. J'aimerais juste citer quelques termes par lesquels l'Écriture nous parle de Satan. D'abord, le Satan, c'est l'équivalent du mot adversaire. Satan, c'est l'adversaire avec un grand A de l'Éternel. C'est son opposé, qui ne peut pas changer, qui ne peut pas se repentir, qui ne peut pas revenir en arrière. Satan, c'est l'adversaire. Et puis, son autre nom, le diable, ça signifie le calomniateur. C'est le menteur, c'est celui qui répand des fausses informations et qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il est appelé l'accusateur des frères. Ça fait partie de son travail. Des frères qui se confient en Dieu et il vient sournoisement tenter de les déstabiliser. L'accusateur des frères, le tentateur, le serpent ancien. Il était à l'œuvre dans le jardin d'Éden. Il est le meurtrier. Il est appelé l'ennemi, le malin. Le menteur dès le commencement, c'est Jésus qui le désigne, qui le dévoile. Il est le menteur dès le commencement. Il est le malin. Celui qui rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Il sait aussi se déguiser en ange de lumière, nous dit l'apôtre Paul. Et il est appelé prince de ce monde. Il porte un titre que Dieu lui-même reconnaît. Il est le prince de ce monde. Il est le Dieu de ce siècle. Alors ne nous y trompons pas. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les dominations, contre les autorités. En réalité, l'opposition spirituelle, toute opposition à la sainteté, toute opposition à mener une vie pieuse, équilibrée, droite, qui honore le Seigneur, toute opposition ne vient pas de la chair et du sang, ne vient pas de nos êtres physiques en eux-mêmes, elle vient de ce Dieu du siècle, elle vient de celui qui est nommé le prince de ce monde. Et je crois que il faut que nous ayons une pleine conscience. Et ici, les deux trônes s'affrontent. Le trône de Dieu, qui a un objectif, libérer son peuple. Et puis, le trône de Satan, qui a un autre objectif, continuer d'asservir le peuple. Vous avez remarqué quand même des détails. Ce peuple n'est qu'un peuple de paresseux. Qu'on l'accable de travail, et il ne pensera plus à servir son Dieu. Croyez pas qu'on vit ça dans nos sociétés modernes. La vie nous engage dans beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, accablés de travail, de responsabilités. Il faut faire face à beaucoup d'éléments. Et les gens disent, Dieu, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Accablons-les de travail et ils ne penseront plus à servir Dieu. Et puis le temps, ce temps qu'on n'a pas, finit par passer. Et puis l'Écriture le dit aussi, occupe-toi de ces choses pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Et c'est difficile, c'est dur de rencontrer des personnes qui ont fait leur vie, puis on leur parle des choses de Dieu, puis ils disent, oui, c'est bien, mais c'est plus pour moi. Mon temps est passé. Et pour beaucoup, des aînés que nous fréquentons. Le temps est passé, c'est plus pour moi. J'ai laissé passer le délai. Et ils ont été piégés par cette même affirmation de Pharaon, mais qui a une origine diabolique. Accablons-les de travail, et ils ne penseront plus à servir leur Dieu. Eh bien, nous sommes dans ce monde, et nous vivons dans ces conditions. Est-ce que nous saurons résister à cette pression et laisser la souveraineté de Dieu s'occuper de notre destinée? Maintenant, on a vu deux trônes, deux discours maintenant. Alors, il y a le discours de Moïse, je l'ai déjà évoqué, mais qui est magnifique. « Ainsi parle l'Éternel ». Vous voyez, Moïse, il ne vient pas en son propre nom. « Ainsi parle l'Éternel ». Il a 80 ans, Moïse. Il a été à l'école de Dieu, 40 ans en Égypte, où il a appris toutes les questions sociales, les questions terrestres de la vie, où il est devenu un prince puissant, un homme érudit, un homme de grande capacité, un des grands chefs de son temps. Et puis Dieu l'a envoyé 40 ans dans le désert, je pense, on dit quelquefois, pour désapprendre. Je ne crois pas, pour apprendre autre chose. Et dans le désert, il a appris qui était Dieu. Il a appris qu'il était le Créateur, qu'il était au-dessus de tout. Et nous retrouvons ici un Moïse qui, pendant ses 80 ans, a appris la foi, qui a reçu le don de la foi, et dont il est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il n'a pas regardé les richesses de l'Égypte comme étant si importantes, mais au contraire, il a regardé les richesses de l'Égypte pour les mépriser, afin de gagner Christ. Il y a le mot dans le texte. Je vous disais, où est Christ dans ce passage ? Eh bien, on apprend par l'Épître aux Hébreux. On est 1500 ans avant la venue en chair de Christ, mais l'Esprit de Christ était à l'œuvre. Et Moïse porte en lui l'Esprit de Christ. Il a regardé les richesses de Christ comme étant bien plus importantes que les richesses de l'Égypte. Voilà ce que ce texte veut nous dire. Et voilà avec quelle force Moïse est délivré de toute crainte, de tout souci devant Pharaon. « Ma richesse est en Christ. Tu peux me dire ce que tu veux, Pharaon. Ma force est là. Les richesses de Christ sont plus grandes que tout. » Et puis, la réponse de Pharaon, « Qui est l'Éternel ?» C'est l'autre discours. « Qui est l'Éternel ?» Mais vous entendez ce mot, cette arrogance qui envahit nos sociétés, qui envahit notre monde. La logique du monde dans le domaine des affaires, dans le domaine sociologique, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la création. On admire les grandeurs, les beautés de la création. Mais qui est l'Éternel ? On ne le connaît pas. La création, elle s'est faite comme ça. Mais la création est belle, mais Dieu n'a rien à y voir. Mais c'est tragique. Et les mots de Pharaon ont une actualité fantastique. Et vous savez bien ce que l'apôtre Paul nous dit en Romains 1. Qui est d'une actualité extraordinaire. Ils sont inexcusables, les hommes, l'humanité tout entière, ils sont inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Juste avant, il était dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu dans la création, dans toutes les lois de la création, les lois de la biologie, les lois de l'univers tout entier. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu par ce livre magnifique de la nature, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On a un pharaon dont l'Écriture dit « son cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres ». Et quand la voix de Dieu se fait entendre, il a une seule réaction. « Qui est l'Éternel ? C'est moi qui règne. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse ? Je suis le Pharaon Tout-Puissant. » Et le texte de Romains ajoute « Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en gloire, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Et puis l'apôtre enchaîne sur la dérive de l'homosexualité, toutes ces questions dont la Bible dit que c'est une puissance d'égarement qui est venue sur eux. Et nous sommes dans une société qui justifie cela. Pourquoi ? Parce qu'ils disent « Mais qui est l'Éternel ? On n'en a rien à faire. C'est nous qui décidons de notre manière de vivre. » Et c'est un jugement terrible. Pharaon était déjà jugé par Dieu. J'aimerais rappeler que si Pharaon représente Satan et en quelque sorte Antichrist, il est aussi dit de Satan que Dieu... J'ai relevé le texte. Dieu a dépouillé les dominations et les autorités, en parlant de Satan et de ses démons. Dieu a dépouillé les autorités et les dominations, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Moïse était imprégné de cela, il avait l'esprit de Christ en lui. Et il avait compris que le Seigneur avait déjà condamné toutes ces choses, que Pharaon était déjà condamné. Et nous sommes dans un temps intermédiaire. Satan et les dominations ont déjà été condamnées, déjà dépouillées. Mais elles sont en quelque sorte dans un temps de liberté conditionnelle. Mais le moment où le jugement sera manifeste et dont il est dit dans l'Apocalypse qu'ils seront jetés dans l'étang de feu et de soufre, ce moment va arriver, c'est certain. Mais Dieu nous demande la patience, comme il demande à ce peuple de patienter. Les interventions de Moïse vont devoir prendre du temps. Et vous l'avez donc compris, on a deux puissances, deux trônes, deux discours. Et Moïse et Aaron sont en quelque sorte des types de Jésus-Christ qui plaident pour la puissance de Dieu. Et ils sont remplis de l'Esprit de Christ. Et ils sont face de l'opposant absolu, celui qui s'oppose totalement à l'Esprit de Dieu et qui ne veut pas en entendre parler. Et puis, ces deux discours, ces deux langages nous amènent à examiner les les deux fonctionnements de ces deux puissances. Mais avant, j'aimerais quand même lire ce que j'ai cité de mémoire, le lire plus complètement. J'avais cité Hébreux 11, 27, qui dit « C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme, et j'aime bien la conclusion, comme voyant celui qui est invisible. » Comme voyant celui qui est invisible. Pharaon était fermé, il ne pouvait pas le voir. Mais Dieu s'est révélé à Moïse. Et Moïse a avancé comme voyant celui qui est invisible. Mais nous avons un parallèle avec l'Église, n'est-ce pas ? L'apôtre Paul aussi nous dit que nous nous appuyons sur celui qui est invisible. Et que par la grâce de Dieu, par la foi, notre certitude, elle est basée sur un royaume qui n'est pas visible, mais qui est révélé aux croyants. Et nous aussi, nous voyons dans le monde invisible ce Seigneur, ce souverain bien, et nous voulons fortifier notre foi et lui faire confiance. Alors, deux principes de fonctionnement. D'abord, Moïse se présente en disant « Je suis serviteur de Dieu, l'Éternel, et le Dieu des Hébreux, va-t-il dire. » Le Dieu des Hébreux. Le mot hébreu est un terme qui veut dire « celui qui traverse, celui qui passe outre. » Et on peut dire que Moïse était animé de cette force d'aller au travers des difficultés, de passer outre les obstacles. Et il portait bien ce nom d'hébreu, pour aller outre. Sommes-nous animés par cette force divine, par la force du Saint-Esprit qui nous dit « Mais vas-y, continue, fais-moi confiance, les obstacles sont là, il semble que tout est bloqué, mais je suis l'Éternel, c'est moi qui ouvre les portes et personne ne les fermera. » Et c'est moi qui suis le maître de ta vie. Et Moïse a dû apprendre à surmonter les contraintes de la cour de Pharaon. Ça ne devait pas être facile. Vous imaginez tout le faste, toute la puissance. Et Moïse, un berger méprisable, qui vient là, au-devant de Pharaon, et avec l'autorité de Dieu. Il a dû faire face à tout cela. Il a dû faire face, ne pas se laisser dominer par la crainte du roi. Et vous avez plusieurs endroits dans la Bible où, par exemple, à Jérémie, Dieu dit « Ne tremble pas en leur présence, de peur que moi je te fasse trembler devant eux. » Et le diable sait faire preuve essaye de nous impressionner pour nous empêcher d'avancer avec lui. Et puis, nous sommes invités à regarder non pas aux choses visibles, comme on vient de le dire, mais à regarder à Christ qui est dans le monde invisible. Et puis Moïse a dû apprendre à vaincre sa propre incrédulité, parce que ce n'était pas possible que ce peuple soit libéré de la servitude en Égypte. Il n'y avait que la main puissante de Dieu pour le faire. Mais reste un autre obstacle qui est de taille. C'est l'incrédulité et l'idolâtrie de tout le peuple. Ce peuple d'Israël, installé en Égypte depuis plus de 400 ans, a adopté l'idolâtrie locale. Il a adopté les faux dieux, il a adopté les coutumes, il est imprégné de cet esprit. Et ce peuple, si Dieu ne le transforme pas, n'aura jamais la force de sortir. Donc voyez, les obstacles sont nombreux, mais la main de Dieu est là pour vaincre tous ces obstacles. J'aimerais quand même souligner que ce peuple a maintenu son incrédulité tout au long de son existence. D'abord, c'est cette idolâtrie qui l'a bloqué 40 ans dans le désert.
Ce n'était pas le plan de Dieu que ce peuple tourne en rond pendant 40 ans. Ce n'était pas du tout l'idée de Dieu. Mais la résistance du peuple, son opposition à Dieu, a fait qu'il s'est retrouvé coincé dans le désert. Et le désert représente, pour nous qui voulons avancer avec Dieu, représente le temps où, tout en étant sauvés par grâce, tout en sachant que le Seigneur nous a libérés de la servitude de l'Égypte, nous sommes encore en train de regretter, vous savez, ils le disent, les oignons, les concombres de l'Égypte. Ils sont en train de regretter la viande qu'ils avaient en Égypte. Et ils oublient qu'ils étaient sous la servitude. Et puis, ils sont là à s'opposer sans cesse à Dieu et à mettre en avant leur idolâtrie. À la première occasion qui leur est donnée, ils fabriquent le veau d'or. Vous connaissez bien ce chapitre, chapitre 32 du livre de l'Exode. J'aimerais encore lire un texte. Dans Ézéchiel. Ézéchiel 20. Verset 7, je leur dis que chacun rejette les abominations qui attirent ses regards, et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. Vous vous rendez compte, on est des siècles plus tard, et le bilan, le Seigneur s'en est occupé, il les a fait sortir d'Égypte, mais le bilan, ils n'ont pas abandonné leurs idoles. Et la question qui se pose, mais et moi, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ma profession de foi n'est que fictive, elle n'est qu'une façade, elle n'est que dans des mots, dans des bonnes intentions. Vous comprenez? L'honneur de prêcher la parole, mais de prêcher la parole, la vérité. Et je crois que le Seigneur doit nous parler. Nous sommes dans un monde d'idoles. Vous dites, mais non, il n'y a plus d'idoles. Je veux juste vous citez Colossiens 3:5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, c'est l'amour de l'argent qui est une idolâtrie. Et vous pouvez vérifier, vous allez trouver peut-être 10, 12, 15 fois dans le Nouveau Testament l'idolâtrie associée au Dieu de l'argent. C'est une idolâtrie. Alors il y a la chair, mais nous sommes dans un contexte où l'argent compte tellement, où l'argent est le premier sujet de préoccupation. Et ça ne concerne pas que les gens qui ont de l'argent. On peut se ronger de souffrance parce qu'on manque d'argent. On peut être misérable, pauvre, ne pas avoir un sou et être travaillé par le sujet. Parce que l'idole, elle est là pour tout le monde, pour les nantis et pour les autres. Et notre société, je crois, est fortement marquée par l'idolâtrie du moi. On l'a lu, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Et puis je ressors la cupidité qui est une idolâtrie. Paul dira à Timothée, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ça conduit à tous les maux, à l'envie, à la calomnie, au meurtre, le désir de posséder. C'est quelque chose de terrible. Et Paul dit à Timothée, et quelques-uns, en étant possédés, se sont enfoncés dans toutes sortes de déviations. C'est la parole qui nous instruit. Sommes-nous prêts à regarder ces choses en face ? Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Et puis, Jean nous dira, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On ne peut pas aimer les richesses de l'Égypte, je me mets à la place de Moïse, et puis aimer l'Éternel. Moïse a dû quitter l'Égypte pour apprendre à connaître l'Éternel et être sevré des richesses de l'Égypte. Et ici, on ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. C'est une impossibilité. Mais je crois que nous avons la faculté d'essayer de faire coexister cela ensemble. Et c'est un sujet important que le Seigneur aimerait dénoncer. Si quelqu'un aime le monde, dit l'apôtre Jean, l'amour du Père n'est point en lui. Mais qu'est-ce que le monde ? Quand j'étais jeune et qu'on nous parlait du monde, on nous parlait du cinéma, des romans, puis je ne sais pas quoi. Puis on avait l'impression que si on faisait un détour devant les cinémas et puis qu'on ne s'attachait pas à lire des romans, on était à l'abri du monde. Eh bien, écoutez ce que dit l'Écriture. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ah, ça c'est pas autour de moi, c'est en moi. La convoitise des yeux, là, tout à l'heure dans Ézéchiel, on a lu que ce peuple avait gardé la convoitise des yeux qui les ont accompagnés tout au long de leur existence. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, dominer. Être au-dessus de l'autre, faire plus que l'autre, faire mieux que l'autre. Tout ça fait partie de notre être déchu. Eh bien, tout cela, nous dit l'Écriture, ne vient point du Père, mais vient du monde. Puis il est ajouté, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Tout cela aura une fin, tout cela sera jugé. Pharaon n'en est pas conscient. Mais dans quelques mois, après ce premier entretien, Pharaon va disparaître dans les eaux de la mer Rouge. Il n'en a aucune conscience. Et l'Écriture veut nous rendre conscients. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Où en sommes-nous avec toutes ces questions ? Eh bien, nous le voyons, les deux cheminent en direction opposée. Les deux principes s'éloignent l'un de l'autre. Et je vais encore citer cette dernière parole que vous trouvez dans Apocalypse 22. Il est dit que celui qui se souille encore, qu'il aille toujours plus loin, jusqu'à ce qu'il soit mûr pour le jugement, sous-entendu. Mais que celui qui se sanctifie encore. Et le peuple de Dieu est appelé à cette deuxième partie de l'alternative. Nous avons été sauvés de l'Égypte, sauvés du monde, sauvés du royaume de Satan, du royaume des ténèbres. Et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, le royaume de lumière. Et le Seigneur nous dit que celui qui se sanctifie encore. Voulons-nous donner notre vie de manière renouvelée, accepter les conditions de Dieu, c'est pour notre bien réel. Et en sachant que toutes ces convoitises ne font que l'œuvre de Satan et produisent des fruits qui vont être jugés, condamnés et détruits, alors que Dieu nous en garde. Nous avons affaire à un Dieu miséricordieux qui nous accueille pour nous purifier, qu'il nous l'accorde. J'aimerais conclure par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est droite, elle est cohérente, elle est parfaite. Ta parole révèle ton esprit. Et nous sommes touchés de penser que Moïse était déjà habité par l'Esprit de Christ. Et qu'avec l'Esprit de Christ qui était en lui, il a pu affronter le prince des ténèbres et il a été victorieux. Merci pour ce témoignage. Parce que ce témoignage, tu nous le donnes pour nous encourager à être fidèles à ton nom, fidèles à tes valeurs, fidèles à tes principes et à accepter de tout notre cœur de faire mourir dans nos corps ce qui est terrestre. Nous te prions pour toute l'emprise que le monde qui nous environne peut avoir sur nous, peut voiler la bonne vision de qui tu es et la destinée que tu nous révèles et que tu nous réserves. Je te prie que chacun de nous, nous puissions nous placer devant toi et, selon le modèle que Moïse nous donne ici, que nous puissions faire face au prince de ce monde, au prince des ténèbres et rester victorieux. Tu nous dis que nous n'avons pas à le craindre parce que tu l'as déjà dépouillé en notre faveur. Eh bien, nous te remercions pour ta victoire. Nous voulons renouveler notre adoration et confirmer notre dépendance de l'Éternel Tout-Puissant. Que ton nom soit honoré. Amen.